Eh bien, les amis, nous sommes arrivés en cette soirée du 24 juillet et nous avons toujours dans notre thème qui donc est Dieu et dans l'étude du Cantique des Cantiques, nous avons à considérer le verset 16 du chapitre 4. Je lirai depuis le verset 12e, qui était notre lecture de ce matin. Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes plants sont un paradis de grenadiers et de fruits exquis, de hennés, de nard et de safran, de roseaux odorants et de cinnamone, avec tous les arbres à encens, de myrrhe et d'aloès, avec tous les principaux aromates. Une fontaine dans les jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. Et notre texte: réveille-toi, nord, et viens midi. Souffle dans mon jardin pour que ces aromates s'exhalent. Et le cri de la bien-aimée qui maintenant semble prête. Que mon bien-aimé vienne dans son jardin et qu'il mange ses fruits exquis. Dieu notre Père, dans la fin de cette journée, en te rendant grâce pour tout ce que tu as été pour chacun de nous, nous venons t'exprimer notre profonde gratitude pour tes soins merveilleux, pour la fidélité avec laquelle tu accomplis toutes tes promesses. Et nous nous attendons encore à toi, à la puissance de ton esprit, pour que nous ayons quelques moments bénis ce soir, où nous puissions t'entendre nous parler dans ton intonation, où nous puissions rencontrer ton regard d'amour, et que nous aussi ce soir, nous connaissions ce moment extraordinaire où nous réalisons que tu viens pour nous bénir, que nous puissions aller à ta rencontre, et que cette nuit soit pour nous la nuit de notre délivrance. Amen. Eh bien, je crois vous donner tout de suite la parole pour qu'on ne puisse pas m'accuser d'avoir pris toute la place. Et je veux croire que vous avez vous-même reçu une instruction des passages que nous venons de lire. Nous vous écoutons. Oui.
L'élévation personnelle, la voix du Seigneur. Verset 16. Lève-toi et sinon, viens au temps. Et chercher du truc que c'était.
C'est le vent du nord et le vent du midi, oui.
Donc, dans mon jardin, pour que les aromates s'exhalent. que mon bien-aimé vient dans son jardin, qui m'a été très déçu, de 15 mois 8, c'est le vin, et c'est ça qui est comme un vin. Et une odeur de vie, comme un riz corinthien, ça fait un coup de tête. Il faut qu'on sache c'est quoi une vie ici à tous les autres.
Tu peux parler un peu plus fort.
Il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une vie crucifiée à tous les jours.
Oui. Crucifiée tous les jours. Je meurs chaque jour. Eh bien, je loue le Seigneur de tout mon cœur de ce qu'il t'a montré cela. C'est un salut quotidien. Nous louons le Seigneur de ce qu'il montre d'une façon vivante et personnelle dans ces temps-ci à une âme ce qu'il veut d'elle. Quelqu'un d'autre? Oui.
La fin du verset 16, que mon bien-aimé vient dans son jardin et il mange ses fruits exquis, qui faisait penser au verset 11 de Isaïe 53. Vous pensez que si le Seigneur travaille mon âme,
c'est normal, comme la nature nous enseigne, la terre rend ses fruits. C'est normal qu'il y ait un peu de main dans ma vie.
C'est vrai. Oui.
Moi, donc, dans ma tradition aussi, le verset 15 du 13, c'est attribué à elle. Parce que dans l'autre tradition, c'est à partir de la verset 13, je pense, les sources de départ. Je sais que pour la première fois, la personne, c'est comme si elle a réalisé que dans le fond, Dieu est en elle. C'est pour la première fois dans le sens antique, parce qu'avant, elle cherchait toujours Dieu à l'extérieur, elle cherchait un Dieu qui était à l'extérieur de elle, elle trouvait après elle, elle se sentait seule. Là, c'est comme si elle venait de réaliser, dans le fond, qu'en elle, suite au discours que Dieu lui a fait de qui elle était elle, de ce que l'Esprit a révélé en elle, que là, elle vient de découvrir qu'elle a un jardin, puis qu'elle a du fruit, puis qu'elle donne ses fruits à Dieu, à produire du fruit, puis que finalement, elle s'est découvert Dieu en elle. Okay.
C'est ça que
je vois, puis que c'est justement l'Esprit qui lui a fait découvrir ce Dieu-là quand il dit « Éveille-toi, vent du Nord » ou...
Oui, mais c'est pas elle qui dit cela, parce que vous ne demandez pas les épreuves, vous ne pouvez pas demander les épreuves. C'est lui qui appelle le vent du Nord pour souffler dans le jardin de la bien-aimée, parce que c'est lui qui veut, par son esprit, faire exhaler les parfums. C'est pour ça que j'ai choisi cette version qui est la plus fidèle au texte, parce que il y a des choses compliquées dans le Cantique des Cantiques, et certains traducteurs, qui étaient peut-être de bons hébraïsans, mais qui n'avaient pas toujours l'esprit de Dieu, Segond, par exemple, était un homme très moderniste même, quand même. Et alors, il y a des choses qu'ils n'ont pas pu saisir. Et je reste fidèle à cette version parce que vous ne demandez pas la souffrance. Jésus n'a pas demandé lui-même la souffrance. Il a même dit, si c'était possible, que cette coupe passe loin de moi. N'est-ce pas? Mais c'est juste ce que tu dis dans un sens, parce qu'elle a découvert qu'elle était vraiment le jardin du Seigneur. Et ça, c'est vrai. Alors, la fin du verset, que mon bien-aimé vienne, c'est bien elle qui demande maintenant, elle est prête, et elle demande que le Seigneur la remplisse. Mais, vous voyez, comme Madame Doulière l'écrit, il a fallu le vent du désert. Puis elle a compris bien des choses, que même son mari prenait trop de place. Mais parce que la bien-aimée, c'est ton cœur et son jardin. Que mon bien-aimé vienne dans son jardin.
Oui, mais au premier partie, non,
Mais ça, c'est le bien-aimé, c'est son jardin. Ton cœur est son jardin. Et il vient de dire tout ce qu'il voit de beau en toi. Et alors, il dit, viens dans mon jardin. Son jardin, ce sont nos cœurs, si nous lui avons donné. Oui. Comment? Oui, mais il parle d'une façon générale. Et le Saint-Esprit et lui ne font qu'un. Mais c'est son esprit qui va souffler. Il ne faut pas séparer le Saint-Esprit du Seigneur. Bien sûr. C'est son esprit qui va souffler sur tout ce qu'il voit dans sa bien-aimée pour que tout cela puisse se répandre, s'exhaler.
Moi, je vois ça comme une erreur, parce que c'est une bonne chose pour aller à la vue.
Comment, hein?
Le vent du nord et le vent du midi.
Mais le vent du nord, c'est le vent de l'épreuve. Hein? Absolument. Oui. Alors, je ne veux pas y entrer ce soir. Mais il y a plusieurs textes dans l'Écriture et qui montrent que le vent du Nord, d'abord, c'est le vent froid de l'hiver. Mais peu importe que ce soit le vent froid, le vent de tempête, de l'épreuve, ou que ce soit le vent chaud du désert qui amène la pluie, peu importe, ce qui compte, c'est de savoir que Dieu dirige le vent. Et c'est lui qui est le maître du vent. Et nous lui faisons confiance. Ça sert à sa gloire. Quel que soit le preuve. Il y avait par exemple à Jérusalem, au temps d'Étienne, une grande persécution. Ça, c'était le vent du Nord, hein, le vent de l'épreuve. Et ce vent de l'épreuve qui soufflait sur l'église de Jérusalem allait même être en bénédiction d'une manière tout à fait particulière, parce que au fond, s'il n'y avait pas eu la persécution à Jérusalem, les disciples seraient restés à Jérusalem. Grâce à la persécution, ça les a dispersés et ils sont allés ailleurs, et alors c'est le vent du midi qui a soufflé sur d'autres contrées, un vent chaud d'amour, de sorte qu'un peu plus loin, il est dit, les églises étaient en paix dans toute la Galilée, n'est-ce pas? Voilà un autre vent, la brise du midi. Alors, que ce soit une épreuve profonde, ou que ce soit une bénédiction, un rafraîchissement, c'est au Seigneur qu'appartient tout cela, et nous lui faisons éperdument confiance. Oui? Oui.
Ça m'a fait
c'est vrai. Et vous voyez que là, dans ce texte que tu cites, tu vois une gradation. Il n'y a d'abord pas de fruits, hein. Et puis, ensuite, il est dit du fruit. Puis, il travaille pour qu'il y ait plus de fruits. Puis ensuite, beaucoup de fruits. Et si tu vas jusqu'au verset 15, c'est du fruit qui demeure. Il y a toute une gradation. Mais pour qu'il puisse porter plus de fruits, le jardinier doit émonder. Alors, il faut se laisser émonder. Ça, c'est le vent du Nord, dans un sens. Il va couper certaines branches, mais pas pour détruire, mais pour qu'il y ait plus de fruits. Alors, de nouveau, laissons-nous faire par le jardin. C'était dans un temps familial qu'on a vu cela, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes disposés à nous laisser faire par le Seigneur? Nous sommes l'argile, c'est pas l'argile qui va dire au potier ce qu'il doit faire. Le potier est libre de briser le vase et de recommencer son travail. Alors, est-ce que nous allons nous laisser façonner comme l'argile dans la main du potier? Et puis, on avait vu d'autres exemples, par exemple, ici, la vigne. Est-ce que nous allons nous laisser émonder par le divin jardinier? Et puis, il est dit que nous sommes aussi le champ de Dieu. Est-ce que nous allons nous laisser labourer par la charrue du laboureur divin? Parce que, justement, lui, il veut préparer nos cœurs pour que nous puissions porter vraiment beaucoup de fruits, 100%, et non seulement 30 ou 60. Mais ça, c'est tout le travail de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Oui?
On peut pas voir ça comme un rassemblement devant l'ordre,
Non, c'est pas contraire, mais tous les vents sont au Seigneur, n'est-ce pas? Il est le maître de tous les vents. Alors, mais il envoie un vent pour certaines choses, puis un autre vent pour une autre chose.
Le vent du midi présente
Mais c'est un autre genre d'épreuve, parce que quelquefois, le vent chaud qui vient du désert peut aussi nous éprouver, comme il peut aussi être en bénédiction d'une autre façon. Mais le but de l'épreuve, c'est jamais de nous détruire. C'est de nous amener encore plus près de lui et qu'il ait davantage de place. Parce que nous avons besoin d'être réveillés. Nous avons peut-être des dons, mais il faut que le vent souffle sur ces dons. Il faut que les bourgeons, n'est-ce pas, éclatent. Tout est peut-être en bourgeon, mais maintenant, il faut vraiment le souffle du Seigneur. Oh, oui.
Sur le chapitre 4, on a la gorge. Sur le chapitre
4,
on
est un peu plus fort, s'il vous plaît. Ne parlez pas pour vous-même.
Quand il dit, voici, tu es belle, et toutefois, j'ai vu qu'un Seigneur, c'est une bonne chose, quand tu es belle, pour moi, je m'en montrais que la manière qu'il parlait des yeux, puis des cheveux, des dents, tout ça, je m'en montrais que vraiment, le Seigneur aime quand on soit belle. Donc, quand il dit que les cheveux sont comme. Ouais.
Mais tu vois ça seulement d'une façon charnelle?
Non, non. C'est la première chose que je vois, c'est qu'on voit que les cheveux, c'est comme les cheveux de chair. On remarque l'important pour les cheveux qui deviennent les cheveux. La deuxième chose que je vois, c'est encore bien plus important. Moi, personnellement, c'est que. Je pensais aux dents, parce que je suis là les dents. Et puis, il m'est venu à la pensée, Josué 8, qui parle de méditer là-dedans, de savoir les choses aimées. Et la signification du mot méditer, c'est le mot ruminer.
Oui.
Les
dents. Oui. Oui.
Les dents, c'est notre sensation.
Mais c'est ça.
Là, j'en ai vu d'une certaine façon, quand j'ai vu les yeux sur la manière qu'ils parlaient, pour moi, ça montrait que quand on lit la parole, après ça, on la médite. Après ça, la parole dit que c'est de l'abondance, car c'est la bouche.
Touche pas.
Donc, on devient qui se lève le cou.
Le cou, exactement. Oui.
Puis après ça, le résultat, c'est que ça part au moment de rien, mais ça part en mise en pratique.
Oui. Mais c'est tout à fait juste. Il y a toute une gradation et un lien, n'est-ce pas? Il faut se nourrir pour pouvoir parler après, n'est-ce pas? Alors, il y a d'abord les dents qui mangent, et puis après, il y a les lèvres qui expriment.
Et c'est important, pour moi,
ça
me
montre
la beauté extérieure, la force.
Ah ben oui, ça aussi, absolument.
Et puis, la beauté intérieure, quand même.
Oui. Il faut les deux. Et une personne qui est belle à l'intérieur, eh bien, elle est belle aussi à l'extérieur. C'est pas simplement des traits physiques, mais on peut avoir même des traits qui ne sont pas toujours très réguliers, mais on sent une beauté. N'est-ce pas? Et le Seigneur revêt même des gens qui ne sont pas beaux physiquement, mais d'une beauté qui se reflète sur leur visage. Quelqu'un d'autre encore? Oui.
C'est que la Dominique a dit ça, qu'on vient aimer, c'est dit d'une façon pas d'appartenir au Seigneur.
Mais pas, elle est arrivée maintenant, le Seigneur l'a travaillée. Et elle est prête parce qu'elle s'attribue plus rien. Tu peux venir dans ton jardin, c'est ton jardin, mon cœur est ton jardin, et puis tu peux venir manger, elle dit pas mes fruits, mais tes fruits, c'est ce qu'il a produit, elle s'est laissée faire, et il a travaillé, et maintenant il y aura une récolte, mais c'est pour lui. Mais elle est heureuse, bien sûr. Oui.
Justement, par cette même ligne de pensée, je voyais dans le fait que si son jardin est détruit, que ce n'est pas une bien-aimée qui parle du nombre des tout publics qu'elle a fait, combien d'années elle est dans le Seigneur et tout ça.
Yeah.
Mais tout revient à son bien-aimée qui a fait le travail. Ça me parle beaucoup de quelle unité j'ai de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est bien intéressant de voir
qu'il en arrive. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de voir le travail de Dieu dans une âme. Il l'amène vraiment à cette humilité et à donner toute gloire au sujet de sa vie au Seigneur. Et je pensais encore dans la prière, dans ma tour, à ce qu'a été le Seigneur lui-même, qui ne s'attribuait rien à lui. Or, il était le Seigneur. Il était le Fils unique de Dieu, mais il disait toujours, par exemple, ma doctrine ne vient pas de moi. Je dis ce que j'ai entendu dire par mon Père. Ma doctrine n'est pas la mienne, c'est celle de mon Père. Il attribuait tout au Père. Il ne s'attribuait pas même les conversions, puisqu'il disait, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'était l'œuvre du Père. Alors, si mon Seigneur m'a donné cet exemple, est-ce que je puis, moi, suivre un autre exemple? Je dois tout attribuer au Seigneur. Et si je suis à son service, c'est une grâce qu'il m'a faite. Comprenez-vous? Et rien d'autre. Qu'il veuille bien encore m'employer, mais c'est une grâce. Je n'ai aucun mérite en cela. Loin de là, et je ne puis que l'adorer et le bénir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Alors, mes amis, après nous avoir exposé d'une manière vraiment admirable tout ce qu'il voit dans sa fiancée, et nous sommes sa fiancée, et nous avoir détaillé sept traits particuliers qui sont ses délices, le bien-aimé nous a présenté encore une fois sa fiancée sous une figure nouvelle. Elle est vue dans le caractère du jardin du bien-aimé. Quand on arrive là au verset 12, tu tu es un jardin clos. De qui est-il question? C'est de ses bien-aimés. Et nous l'avons vu ce matin, ce n'est pas un jardin public. C'est un jardin clos. C'est un jardin privé qui n'appartient qu'aux bien-aimés. Et si vous n'êtes pas d'abord vous-même un jardin privé, vous ne pourrez jamais atteindre les âmes. Vous n'aurez aucun pouvoir sur le public, sur l'extérieur, dans le monde, si vous n'êtes pas vous-même le jardin secret du Seigneur. Il doit réellement vous habiter, être en vous, pour que vous puissiez, après, être utilisé pour parler au monde avec une autorité. Parce que, sans cela, on sentira bien que c'est de la théorie, que vous avez des dogmes, que vous avez peut-être des vérités tout à fait orthodoxes, mais au fond, vous ne vivez pas de sa personne. Vous avez une connaissance doctrinale remarquable, on ne peut pas vous prendre sur un point de doctrine, mais quant à la vie pratique, ça ne correspond pas et cela vous coule et vous êtes plutôt une entrave aux conversions avec tout votre bagage de spiritualité et de piété qui ne serait que des formes. Ils ont la forme de la piété, mais ils en ont renié ce qui en fait la force, la puissance. C'est la puissance de la piété, de cette relation avec Dieu, justement, c'est de cultiver quotidiennement, journellement, heure par heure, et je dirais même moment après moment, minute après minute, seconde après seconde, notre contact avec Dieu. Il faut veiller à cela. Et alors, vous rejetez tout ce qui pourrait vous distraire. Et, voyez-vous, ne pensez pas que ça sera quelque chose de très difficile. Parce que si vous aimez, si l'amour de Dieu remplit votre cœur, et ce n'est pas vous qui pouvez le remplir, mais le Saint-Esprit vient remplir nos cœurs de cet amour, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, laissons le Saint-Esprit faire, il remplit nos cœurs, et alors on réalise bien que, comme notre frère l'a souligné, sans lui nous ne pouvons rien faire, mais rien de rien dans tous les détails. De sorte que l'apôtre Paul en arrivait à dire, mais moi, ma capacité, elle vient de Dieu. Et Moïse, lui, le grand Moïse, qui était tellement bien préparé par les écoles égyptiennes, ce n'est pas cette science de l'Égypte qui lui a permis de sauver Israël. Mais c'est ce contact permanent avec son Dieu dans lequel il s'est trouvé pour pouvoir intercéder pour le peuple. Et voyez-vous, ce qui me bouleverse toujours, c'est que quand Dieu a dit à Moïse, et ça c'est un test, hein, il lui a dit, je vais maintenant détruire ce peuple, parce que c'est un peuple au cou raide, et puis je ferai de toi un grand peuple. Il s'est jeté sur sa face, il a dit, non Seigneur, efface-moi plutôt de ton livre. J'aimerais mieux être damné, mais sauve ce peuple. Et bien voilà ce qu'il nous faut arriver à pouvoir dire. Même si j'étais en enfer, mais que tous les autres soient sauvés, Seigneur, sauve-les. Ça nous parle, alors qu'on parle toujours de notre salut, nous sommes des sauvés, si vous êtes des perdus. Attention, attention, attention. L'apôtre Paul dit que pour que les Juifs soient sauvés, ses frères selon la chair, qui pourtant le persécutaient, il dit qu'il a souhaité être anathème, c'est-à-dire maudit, séparé de Dieu, pour que eux soient sauvés. Il est complètement dépréoccupé de son propre salut. Mais justement, parce que une fois que le Seigneur nous a sauvés, nous le sommes. alors on n'est plus préoccupé de notre salut. On se laisse faire. Et là, je crois que je l'avais raconté. C'est un homme en Israël qui m'avait raconté cette espèce de vision. Et il ne faut pas penser que je suis universaliste si j'ai trouvé qu'elle me parlait. Donc, il y aurait eu l'enlèvement. Nous serions derrière la porte du ciel. Et nous attendons qu'elle s'ouvre. Mais on est tous déjà là-haut. Puis, on se demande pourquoi la porte ne s'ouvre pas. Puis un ange vient nous dire qu'il y a une décision qui doit être prise et qu'il nous faut encore attendre. Alors les élus, les sauvés, sont là, qui attendent, mais qui commencent un petit peu à s'impatienter quand même. Et puis tout à coup, un messager vient leur dire que le Père éternel a décidé de sauver les perdus, les autres, et de faire entrer quand même tous les perdus. Alors, il y a une colère chez les élus qui dit, alors, ça valait bien la peine que nous soyons privés de ceci, privés de cela. Ils voudraient redescendre dans le monde. Parce qu'ils ont raté leur coup. Vous savez, ça parle, ça. Hein? Ça parle drôlement. Au lieu de se dire, mais c'est bonheur qu'il soit quand même sauvé, parce que quand je pense que moi je suis, et quand je pense ce que je valais et ce que je vaux, il y a un tas de gens qui valent bien plus que moi. Vous comprenez? Mais on a des fois besoin de ces visions-là pour voir l'état de notre cœur et les réactions que nous aurions. Nous ne nous réjouirions pas. Et puis nous regretterions surtout de ne pas avoir été dans toutes les discothèques, de ne pas avoir été chez les femmes nues et tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce qu'on s'est privé? Moi, je m'en parlais. Ça nous sonde. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde s'il y a en moi quelques voies de chagrin et conduis-moi dans la voie d'éternité. Alors, voyez-vous, je vais seulement souligner maintenant cette question de jardin. La bien-aimée est comparée à un jardin. Il y a plusieurs jardins dans l'Écriture, mais je vous parlerai juste brièvement de quatre que vous connaissez bien. Le premier jardin de l'Écriture, c'est lequel? C'est le jardin des hommes. Qui est-ce qu'il a planté dans cette merveilleuse création où tout était beau et où tout était bon? Car Dieu a dit à la fin de son œuvre que c'était très bon. Chaque jour, il a dit que c'était bon, mais le dernier jour, il a dit que c'était très bon. Et alors donc, cette merveilleuse création, lui-même a fait un jardin qui devait être la demeure du premier homme. Et dans ce jardin, il lui a donné cette compagne pour qu'il ne soit pas seul, puisqu'il ne trouvait pas d'aide qui lui corresponde. C'était donc le jardin du premier homme qui était arrosé par un fleuve qui nous représente, ce fleuve de la grâce, qui se divisait en quatre rivières, qui allait aux quatre points cardinaux, de sorte que la grâce était générale, la grâce était pour tous. C'était un lieu de lumière, Éden veut dire délice et charme, c'était un lieu de délice et de charme, c'était la demeure de Dieu pour le premier homme. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce jardin où se trouvaient les deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais vous le savez bien, il n'y avait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était interdit à l'homme, pas l'arbre de la vie. Il pouvait se nourrir de l'arbre de la vie, mais il ne s'en est pas nourri. Ce que l'homme a convoité avec Ève, ce fut l'arbre de la connaissance du bien et du mal, duquel Dieu avait dit clairement, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'homme était créé libre, mais il n'était pas indépendant, parce que l'indépendance n'est l'apanage d'aucune créature. Et cet arbre qui lui était interdit lui rappelait simplement qu'il devait obéissance à son créateur. C'était tout ce qu'il lui était demandé. Et pourtant, c'est cette connaissance hors du contrôle de Dieu qu'il a voulu pour lui. Croyant le mensonge de Satan, vous serez comme Dieu, alors que justement, le plan de Dieu, c'était d'amener l'homme à la ressemblance de son Fils unique, à la gloire éternelle. Mais Satan a détourné l'homme du chemin de Dieu en lui faisant croire qu'il pouvait arriver à cet état de divinité, de participation à la divinité sans Dieu. Voilà ce que Satan lui a fait croire. Tu peux arriver par toi-même. Or, tu l'as souligné, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais l'homme s'est cru dans une situation telle qu'il pouvait se passer de Dieu. Et ayant désobéi, eh bien, il est retombé, c'est ça la suite, il est retombé sur lui-même, et il n'était plus que chair, et la chair est faible. Et il devait apprendre, par un long et douloureux chemin, le chemin de la connaissance du bien et du mal, qu'il était très capable de faire le mal, mais qu'il n'avait aucune force pour faire le bien. Comprenez-vous ? Le mal, il est capable de le faire, mais le bien, il est incapable de l'accomplir. Il a la notion du bien, mais le bien, il est incapable d'accomplir, et il devient l'esclave. De sorte qu'à la chute, l'homme a perdu sa liberté. Il n'est plus réellement libre. Et c'est pourquoi c'est le Seigneur qui nous rend la liberté. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous vous croyez libre, mais au fond, vous êtes esclave. Et quand on entend dire, mais vous savez, pour s'excuser, on dit, il n'y a pas plus de mal à faire ceci qu'à faire cela. Pourquoi vous dites cela? C'est déjà mal. Comprenez-vous? Quand vous dites, il n'y a pas plus de mal, c'est donc que c'est déjà mal. Et vous ne pouvez pas avoir la bénédiction du Seigneur et la plénitude de son approbation. Vous déplaisez au Seigneur. Ce que le Seigneur désire, c'est un cœur entier pour lui. Et c'est à cela que nous devons arriver d'ici à demain, à comprendre que nous ne pouvons pas clocher des deux pieds, mais il nous faut vraiment nous décider pour le Seigneur, mais d'une façon totale et définitive. Nous ne reviendrons pas en arrière, les ponts sont coupés derrière vous. Comprenez-vous? Vous ne pouvez plus reculer. Il n'y a de salut que devant vous. Alors avancez, avancez toujours. Le Seigneur est devant vous, il est votre protection derrière vous. Donc, je vois maintenant ce jardin de lumière est rempli d'ombre. Ce jardin d'amour est rempli de crainte. Le règne de la peur a commencé. Et quand Dieu vient se promener à la brise du soir dans ce jardin, l'homme, au lieu d'aller à sa rencontre, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Et alors on entend dans ce jardin les pas de Dieu qui cherche sa créature, qui cherche l'homme, qui se cache sous les arbres du jardin et qui a essayé par lui-même de couvrir sa nudité par des feuilles de figuier. Symbole d'un salut par nos œuvres. On essaye de couvrir notre nudité par des feuillages. Pauvres que nous sommes. Et voilà qu'ils ont peur. Adam, où es-tu? Et vous connaissez la suite, ils doivent paraître devant Dieu, et dans ce lieu où il n'y avait pas de souffrance, où il n'y avait pas de mort, Donc ce lieu qui ne connaissait pas les épines, eh bien, vous entendez parler de malédiction, de souffrance, d'épines, de poussière, qu'il allait reconnaître de nouveau, tu retourneras à la poussière d'où tu as été pris. J'abrège, je quitte le jardin d'Éden dont la porte est fermée, les chérubins sont là avec l'épée pour empêcher l'homme dans sa situation, dans son état, de s'emparer de l'arbre, du fruit de l'arbre de vie, parce qu'est-ce qui serait arrivé? L'homme aurait vécu éternellement, dans quelles conditions? De péché, n'est-ce pas? Et ça serait la pire des choses. Ainsi, il n'y aurait plus de délivrance pour aucun infirme, plus rien. Tandis qu'au moins, malgré tout, par la mort, eh bien, ça finit, et puis nous avons une espérance. Parce que Dieu a encore tiré de tout ce mal du bien, parce qu'il est un Dieu de miséricorde. Et justement, il a fait, au moment même où il jugeait l'homme et la femme, et où il a jugé Satan, il a fait à l'homme une promesse de grâce, la postérité de la femme, dit-il au serpent, t'écrasera la tête et toi tu la blesseras au talon, ce qu'on appelle le protévangile, Genèse 3, 15. Hein. C'est la première promesse messianique. Il y aura un jour un libérateur qui écraserait la tête du serpent, c'est-à-dire la puissance de Satan, tandis que Satan réussirait de blesser la postérité de la femme. Qui est qui? Jésus, le fils de Marie, n'est-ce pas? Au talon. Le talon, c'est la partie la plus basse de notre être, par laquelle nous touchons à la terre. Donc, le Seigneur Jésus a été atteint dans son humanité, mais ne pouvait pas être atteint dans sa divinité. Mais il a été blessé au talon. Mais c'est en étant blessé au talon, c'est en entrant dans la mort, qu'il a vaincu l'homme fort, qu'il a pillé ses biens, et qu'il est monté en haut, emmenant captive la captivité, et créant un paradis dans le ciel pour les âmes qui attendent la résurrection. C'est quelque chose de merveilleux quand on commence à comprendre tout ce que le Seigneur voudrait nous révéler. Tous les fruits de la victoire du Seigneur. Il n'est pas seulement ressuscité, mais il a emmené toutes les âmes qui étaient dans le séjour des morts, les âmes des justes, les âmes des croyants, il les a emmenées, ces âmes qui étaient captives dans le séjour des morts, il les a emmenées auprès du Père dans l'attente de la résurrection. Il a emmené les captifs et il les a libérés de la puissance de la mort. C'est quelque chose de fantastique. De sorte qu'il y a un paradis. Maintenant, actuellement, il y a un paradis. Mais où est-il ce paradis? Dans le ciel. Où est-ce que je trouve ça? Apocalypse, chapitre 2. Le paradis terrestre est perdu, mais il y a un paradis actuellement. Apocalypse 2. Verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui est dans le paradis de Dieu. Il y a un paradis de Dieu. Et vous savez que l'apôtre Paul lui-même, pendant sa vie, a été introduit dans ce paradis de Dieu. Au chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens, il nous dit, tout en se tenant derrière le voile, comme on l'a vu, il nous dit l'expérience qu'il avait faite. Il est vrai qu'il est sans profit pour moi de me glorifier, car j'en viendrai à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Il ne dit pas moi, mais je connais un homme en Christ. J'aime tellement cette expression. Je connais un homme ensuite. Et qui est cet homme? C'est lui. Hein? Mais vous voyez, il met toute gloire sur le Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais, si ce fut hors du corps, je ne sais, mais Dieu le sait, je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Et je connais un tel homme, si ce fut dans le corps, si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, il a été ravi dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Alors, mes amis, vous pouvez déjà vous figurer un peu le bonheur, même des âmes qui ont quitté leur corps et qui attendent maintenant auprès du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il était toujours parlé de descendre dans le séjour des morts, tandis que maintenant, c'est monter auprès du Seigneur. Et là où Paul a été introduit, il y a entendu des choses ineffables, qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. De sorte qu'il est inutile de vouloir consulter les morts pour être en relation avec eux, puisque quelqu'un qui est allé nous dit que c'est quelque chose d'inexprimable. Et ça m'a frappé encore la lettre de cette femme, n'est-ce pas, qui dit qu'elle ne peut pas exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve, parce que ce paradis de Dieu, il est déjà dans son cœur. Il est déjà en elle. Et c'est cela, notre cœur doit devenir ce paradis de Dieu. Il voudrait que sur la terre, nous connaissions déjà quelque chose du ciel, de cette paix d'en haut, de cette joie d'en haut, et que nous entendions aussi de ces choses ineffables. Et alors maintenant, je viens à un deuxième jardin. Je le trouve dans l'Évangile. Le jardin de Gethsémane. Jardin de Gethsémane. Quel était ce jardin? Près du torrent du Cédron, à Jérusalem, au pied de la montagne des Oliviers. C'était le jardin où Jésus, le second homme, le dernier Adam, trouvait un gîte, un abri, lorsqu'il était sur la terre. Et c'est là, dans ce jardin, qu'il a été arrêté. Par qui? Par des hommes qui cherchaient Dieu pour le mettre à mort. Ce Dieu qui avait prononcé certaines paroles en jugeant l'homme et en jugeant Satan, eh bien, l'homme, guidé par l'esprit de Satan, le meurtrier qui s'était emparé de Judas, cherchait à arrêter le second homme. Et je voudrais que vous ayez la vision du second homme dans le jardin de l'agonie, prosterné, étant dans l'angoisse du combat et dans la souffrance déjà de la mort, qu'il envisageait cette mort horrible, cette mort ignominieuse, où il allait être fait péché pour nous. Lui, l'être sans péché, allait être traité comme s'il avait commis toutes les infamies du monde, toutes les souillures de la terre, toutes les pensées mauvaises des hommes, allaient lui être attribuées pour qu'un jour on puisse dire à un grand pécheur, à un homme souillé, corrompu, tu es pardonné. Jésus a payé pour toi. Il a expié dans sa chair sainte tous les péchés que toi tu as commis dans ta chair corrompue. C'est fait. Justice est faite. Dieu n'a pas passé l'éponge. Quelqu'un a pris tes péchés, de sorte que ta conscience peut être libérée. Les dettes que tu as faites sont payées. C'est quelque chose qui nous bouleverse. Et alors, quand je vois mon Seigneur prosterné est dans cette souffrance et que sa sueur devient semblable à des grumeaux de sang, je pense à Gethsemane, à Éden, où Dieu disait au sujet de l'homme que son travail serait pénible. Il gagnerait son pain à la sueur. Vous retrouvez tous les mots à la sueur de son visage. Ah, c'est ça. Eh bien, c'est toi qui vas suer. Toi, Seigneur. La sueur, c'est toi qui vas l'avoir. Et cette sueur, elle sera telle en toi qu'elle sera même sanglante. Et puis, qu'est-ce que vous avez entendu? Je rendrai très grande tes souffrances et ta procès, son travail qui enfantera. Eh bien, c'est toi, Seigneur. Si tu veux enfanter une nouvelle humanité, eh bien, tu auras un travail épouvantable, une souffrance indescriptible. Et puis, tu as parlé que l'homme retournerait à la poussière. Eh bien, c'est toi qui retourneras à la poussière. Et puis, quant au sol qui doit produire des épines, eh bien, ces épines, on les mettra sur ton front. Alors, vous voyez, entre le jardin que Dieu avait donné au premier homme, jardin de délices et de charme, et le jardin de Gethsémané, il y a correspondance, mais le jardin de Gethsémané, jardin du second homme, jardin de ténèbres, alors que l'autre était un jardin de lumière. Est-ce que cela ne vous dit rien? Est-ce que cela ne parle pas à votre cœur? Et l'on n'entendait pas, comme dans le jardin d'Éden, mais ce n'est pas de l'homme qui cherche son Dieu pour lui régler son compte. Et ils l'ont fait souffrir. Ils l'ont crucifié. Mais je vous le demande, vous êtes habitués à ça? N'est-ce rien pour vous tous qui passez le chemin de voir s'il est une douleur comme ma douleur? Vous êtes sauvés par grâce et gratuit. Le prix de la grâce, mes bien-aimés, c'est la mort ignominieuse du Sauveur en croix. Il s'est laissé tondre comme une brebis. On a parlé des brebis tondues. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il m'a aimé. Voilà ce que Paul peut dire. Le Fils de Dieu m'a aimé. Et il s'est livré lui-même pour moi. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il t'a aimé. Mon frère, ma sœur, ne veux-tu pas ce soir lui dire merci? Est-ce qu'il n'a pas droit à entendre un mot de tes lèvres? Cette confession, que tu l'acceptes, que tu le reçois, que maintenant c'est lui qui va être le maître de ta vie. Et que peux-tu lui donner? Qu'est-ce qu'il te demande? Mon fils, donne-moi ton cœur. Mais vous me direz, mais j'ai déjà donné mon cœur. Alors, est-ce que vous auriez deux cœurs? Un cœur pour le Seigneur, puis un autre cœur pour le monde? C'est un peu ça, hein? Vous avez deux seins. Vous n'avez pas deux cœurs. Et si vous aviez deux cœurs, il faudrait lui donner les deux cœurs. Il ne peut pas partager. Et ça, comprenez-le. Il ne peut pas partager. C'est tout ou rien. Et c'est ce que nous devons dire aux âmes. Mais on veut tellement faciliter le chemin pour que les âmes se décident pour le Seigneur. Puis on leur dit que si vous l'acceptez, vous aurez encore ça par-dessus et tout ça, c'est gratuit. On est comme des marchands qui veulent vendre leurs produits. On veut vendre le nom de Jésus. C'est abominable. Et nous perdons les âmes. Nous les éloignons du salut. Elles pensent être sauvées, puis elles ne le sont pas, puis elles retombent, et puis après elles sont vaccinées contre une réelle conversion. Parce qu'elles ont entendu tout cela, elles ont vu ces manifestations, elles se sont avancées, elles ont même pleuré, mais c'était des larmes émotionnelles. Puis il y avait une belle musique qui aidait à tout cela. Nous conditionnons les âmes, alors qu'il nous faut laisser l'Esprit Saint faire son travail et son œuvre dans les cœurs. je quitte ce jardin et j'en vois un troisième, parce qu'il me faut terminer bientôt. C'est le jardin de qui? De Joseph d'Arimathée. Et dans ce jardin, il n'y a pas une fontaine. Qu'est-ce qui s'y trouve? Un tombeau, un sépulcre neuf. Et ceux-là ont mis le corps de mon Seigneur quand on le descendit de la croix. Ils allaient pleurant portant la semence qu'ils répandent. Et je vois ce cortège le vendredi saint, le vendredi soir. Ils vont porter le corps du Seigneur dans le sépulcre de Joseph, un disciple en secret, un sépulcre qu'il s'était taillé pour lui-même et dans lequel personne n'avait jamais été mis. Et on a scellé la pierre. Un tombeau scellé, une fontaine scellée aussi, seulement pour lui. Mais voilà, c'était le grain de blé qu'on avait posé en terre. Et la vie étant dans le grain de blé a germé, la pierre a été roulée, la pierre est roulée. Et c'est extraordinaire, la puissance d'une semence, elle fait craquer le béton, elle fait craquer la pierre, et la vie sort de la tombe, la vie sort de la pierre. Et dans ce jardin, alors, que j'appellerai le jardin de la rencontre, on n'y entendait pas. C'est d'abord ceux de qui? De Marie-Madeleine. Elle cherche son Seigneur. Et puis tout à coup, on entend d'autres pas. Elle croit que c'est le jardinier, et c'est pourtant le Seigneur. Il est vivant. Et c'est la rencontre entre l'âme rachetée et le Seigneur. Jardin de Joseph. Jardin de la résurrection, dans les splendeurs de la résurrection, elle voit celui qu'il a tant aimé et pour lequel elle veut vivre. La vie n'avait plus de goût pour elle maintenant qu'il était mort. Mais il est ressuscité, alors elle donnera toute sa vie pour lui. Elle sera la première messagère de la bonne nouvelle. Les messagères de la bonne nouvelle sont en grand nombre, nous dit un psaume. C'est tellement merveilleux. Et c'est elle, une femme, qui ira dire aux apôtres que Jésus est vivant, qu'il monte vers son Dieu qui est notre Dieu, vers son Père et qui est notre Père. Alors le quatrième jardin, bien, je le vois là, comme je le vois dans d'autres portions de l'Écriture, c'est le jardin du bien-aimé. Vous êtes son jardin. Maintenant, il veut vivre en vous. Le monde le renie, le monde le rejette, le monde n'a pas de place pour Jésus. Il doit avoir ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Je me souviens d'avoir prêché il y a bien longtemps sur ce texte, et c'est ainsi qu'un jeune homme de 15 ans s'est converti. Il est devenu plus tard mon gendre et c'est lui qui dirige l'œuvre du refuge avec une de nos filles dans la dépendance du Seigneur. La première fois qu'il a entendu la prédication de l'Évangile au refuge, il avait 15 ans, il avait été amené par un camarade d'école qui se faisait baptiser, un camarade de lycée, et qui avait voulu qu'il voit cela, que ce soit pour lui un témoignage. Et le lendemain, je vois ce jeune homme que j'avais à peine entrevu et qui vient vers moi à 4h de l'après-midi et qui, dans le jardin du refuge, me dit « Est-ce que je pourrais vous parler ?» Oui. Eh bien, voilà, en sortant du lycée à midi, sur le pont Barla, c'est un pont de Nice, j'ai rencontré Jésus-Christ. Tu as rencontré Jésus-Christ? Oui. Et il m'a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. J'ai été transpercé. Et c'est fait. Lui? Mais vous vous dites, lui, fils d'un croupier du casino? On est surpris, on prêche l'évangile, on croit que l'évangile veut produire quelque chose. Puis quand ça a produit, c'est comme les gens en prière pour Pierre. Ils demandaient la délivrance de Pierre, puis tout à coup on a frappé derrière la porte. Et puis la petite servante dit, c'est Pierre, puis le producteur est folle. On prie pour une délivrance, puis quand la délivrance est et là, on n'y croit pas. Voilà ce que nous sommes, chers amis. Il faut que nous soyons secoués complètement et que nous prenions position maintenant pour le Seigneur. Oui ou non, voulons-nous le suivre et nous laisser faire par lui et être de ceux qui croient et qui l'aiment et qui ne veulent pas clocher des deux côtés. Le Seigneur est digne d'avoir votre cœur tout entier et tout votre amour. Et puis, c'est lui qui va réaliser sa vie en vous. Ce n'est pas vous qui avez essayé de vivre sa vie. Parce que vous n'auriez qu'un Christ extérieur et c'est impossible. Mais si vous le laissez en vous prendre la place, eh bien, vous deviendrez son jardin. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Est-ce que vous ne voulez pas lui dire ce soir que mon bien-aimé vienne dans son jardin? Vous ne voulez pas lui dire. Oh, viens dans ton jardin. Tu te l'es acquis à un si grand prix. Tu m'as racheté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est racheté? C'est qu'il a payé notre rachat. Donc vous lui appartenez. Vous êtes à lui. Non pas seulement il est à vous, mais vous êtes à lui. Il doit y avoir progrès. Avant vous disiez, il est à moi, mais vous êtes à lui. Eh bien, que ce soir, le Seigneur prolonge lui-même ses lignes et que nous puissions laisser le Seigneur, s'il le veut, viens, vent du nord, viens, vent du midi, souffle dans ton jardin. Que le souffle de ton esprit passe ce soir, passe cette nuit, sur Mahanaïm, le camp de Dieu. Oui, fais-le souffler, ce vent qui a fondu la mer rouge, ce vent violent qui a fait que les eaux sont séparées pour donner délivrance à ton peuple d'Israël. Tu as fait souffler le vent, comme tu l'as fait souffler aussi après le déluge pour assécher la terre. C'est toi, Seigneur, le maître du vent. Et tu emploies le vent comme tu veux. Tu fais des vents tes messagers et de tes anges, de ces esprits administrateurs, employés pour ceux qui doivent hériter du salut. Que nous puissions dans ce Mahanaïm ressentir la présence des êtres célestes, de ces puissances spirituelles qui sont à ta disposition et entièrement dévoués au salut des pécheurs. Qu'il n'y ait ici aucune âme qui reste tiède, mais nous tous qui nous sommes attiédis, que nous puissions nous repentir. C'est passer le vent de la repentance sur chacune de nos âmes et que ton sang nous couvre, et que dans ce sang nous puissions savoir que tout a été expié, que tu ne te souviens plus de nos péchés ni de nos iniquités, et que nous puissions maintenant, disponibles pour toi, te dire, prends ma vie, Seigneur Jésus. Fais-nous la grâce de te servir dans un tel monde. Car nous pourrions regretter au moment où tu nous appelleras d'avoir eu si peu d'amour pour toi. Redonne-nous la flamme du premier amour, cet amour qui ne devrait jamais baisser. Nous te le demandons dans la foi, puisque tu as dit demander. Et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. ouvrez, frappez, et l'on vous ouvrira. Que tu nous donnes une nuit dans ta présence.